Pauline Pucciano, La mort, l'amour et la mer. Chapitre 1. D'aussi loin qu'Amanda pouvait se souvenir, il n'y avait jamais eu qu'une seule pièce habitable dans la maison de sa mère. Elle n'aurait pas su dire combien il y avait de pièces en tout, car elle ne les avait jamais comptées, et parce que la géographie de la maison lui était toujours demeurée obscure. Il ne lui arrivait d'ailleurs que rarement d'être envoyé en mission à travers la forêt de meubles et de parois. « Amanda, disait sa mère, j'ai besoin d'une toute petite boîte en bois peinte en mauve qui doit se trouver dans la chambre des mousses, dans le grand buffet argentin de l'oncle Pierre, qui est tout au fond, sur ta droite. Tu déplaceras la pile de planches qui est devant la porte du bas et tu donneras un petit coup sec pour l'ouvrir parce que cette fichue porte est branlante depuis que cet imbécile d'Alexandra l'a cassée en faisant du vélo. » Dieu sait combien d'heures ton oncle a essayé de la réparer. Mais c'est toujours comme ça, on ne répare jamais ce qu'on préfère. Et la petite boîte mauve devrait se promener par là, à moins qu'elle ne soit dans le tiroir du haut. Mais alors tu devras remettre la pile de planches et grimper dessus, parce que tu n'es pas beaucoup plus grande que moi et que je n'ai jamais réussi à l'atteindre. Amanda, en général, et ce malgré la pléthore d'informations, n'arrivait jamais à trouver la petite boîte mauve, ou le petit vase de cristal, ou le petit morceau de ruban vert foncé, et sa mère lui disait toujours « Tu es comme ton père, toujours à réclamer de l'aide, jamais fichu de retrouver quelque chose. Mathilde aussi était comme ça. « Madame, madame !» Elle m'appelait toutes les 2 minutes. « Je n'arrive pas à ranger le saladier, je ne trouve pas l'éponge. » Un jour je lui ai dit « Ma petite Mathilde, si vous étiez sur une île déserte, vous seriez bien obligée de vous débrouiller toute seule. » La pièce, l'unique, qui constituait le cœur essentiel de la maison et que la mère appelait le salon, bien qu'elle servît à tous les usages, était presque aussi encombrée que les autres, mais comportait 2 axes entièrement déblayés qui reliaient la porte à la cheminée et la cheminée jusqu'au lit au fond de la pièce. La mère, bien qu'elle fût parfaitement valide, se déplaçait fort peu et restait le plus souvent assise dans son fauteuil, qui faisait corps avec l'entassement des choses, mais qui était opportunément placé vers la cheminée à la croisée des 2 chemins. Cette position permettait à la mère de se tenir constamment au chaud, de s'occuper du feu et de contrôler les allées et venues éventuelles d'Amanda et du chat. Celui-ci, depuis sa plus tendre jeunesse, avait développé des stratégies fort complexes pour se soustraire à sa tyrannie. Amanda l'avait souvent observé. Il guettait de longues heures le moment d'assoupissement de la mère où il pouvait atteindre la porte sans se faire remarquer. Ou bien il contournait, escaladait et sautait des obstacles insensés pour couper à travers les choses. Amanda n'avait jamais compris pourquoi il ne passait pas, comme elle, par le chemin normal, car la mère ne le tapait jamais, et même disait parfois qu'il était beau. Mais le chat manifestait une grande aversion pour elle, et ne l'approchait qu'acculé, les poils hérissés et les oreilles en arrière. Qu'il passât ici ou ailleurs, importait d'ailleurs assez peu, car ce qu'il faisait tomber n'était jamais ramassé. Amanda se souvenait qu'un jour, alors qu'elle était toute petite, peut-être même encore bébé, une femme était venue, telle un grand courant d'air, et avait essayé de faire changer l'immuable. Elle ne savait pas qui c'était, mais elle revoyait très nettement la profanation des choses. La femme attrapait les boîtes, les flacons, les livres, les morceaux de tissu, les jouets cassés, les albums, les bouts de bois, les petits meubles à roulettes, les papiers, les couvercles sans peau, les pots sans couvercle, les assiettes ébréchées, les bibelots sans nom et sans nombre, les bouchons, les ficelles, les vêtements, les tabourets. Et au fur et à mesure que les choses étaient jetées dehors, la mère devenait de plus en plus pâle, jusqu'à ce qu'on se rendît compte qu'elle perdait tout son sang. On arrêta brusquement le tremblement de terre pour s'occuper d'elle, on craignait un cancer, une fausse couche, mais elle dit seulement « Rendez-moi mes choses !» Et dès que, affolée, la femme eut tout rentré, la mère reprit des couleurs et se déclara convalescente. Depuis ce jour, personne n'essaya plus jamais de débarrasser la maison, et Amanda grandit dans le fatras sacré, sans lequel la mère n'était plus la mère et ne pouvait pas vivre. Lorsqu'elle n'épluchait pas les pommes de terre et qu'elle s'était acquittée du ménage quotidien, qui consistait à faire les lits, balayer les chemins, épousseter le fauteuil et nettoyer l'âtre sur lequel elle mangeait, la mère parlait. Des heures durant, immobile, avec une volubilité toujours égale. Elle racontait des histoires de son enfance, de sa jeunesse, de son mariage, de ses 2 filles, des histoires du village, des histoires de ses parents, de ses amis et de ses bonnes. C'était comme un énorme livre dont le vent feuillette les pages, une Bible vivante pleine de douleurs et d'enseignements, de vie, de mort, de détails et de légendes. Amanda pensait que tous les objets de la maison avaient une histoire et que sa mère les connaissait toutes, et cela l'emplissait de respect et de crainte. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était que sa mère lui parlât de sa propre enfance. Quand tu es née, je me souviens exactement du jour. C'était le jour de l'anniversaire de ton père. Il fêtait ses 100 ans, tu te rends compte? Et tout le monde croyait que tu n'étais pas de lui. Mais moi, je te le jure, sur la tête de ta sœur, tu es sa fille aussi bien que la mienne, et je n'ai jamais trompé mon mari. Il était si content que tu naisses. Enfanter dans son vieil âge est un don du ciel, je te le dis. Et mon Dieu, comme j'ai rajeuni cette année-là. Eh bien, ce jour-là, il est venu nous rejoindre et, paix à son âme, pour la seule et unique fois de sa vie, il a oublié de fermer la porte à clé. Le pauvre homme, lui qui la vérifiait sans cesse, parfois plusieurs fois avant de se coucher, ce jour-là il était trop heureux et il a laissé la porte grande ouverte. Ta sœur n'était pas là, je l'avais laissée à la voisine, ton père ne pouvait pas s'en occuper. Et c'est ce jour-là qu'on nous a volé tout ce que nous avions. Mais je vais trop vite, il ne le savait pas encore quand il est arrivé. Et quand il t'a vu, je n'ai jamais vu d'homme aussi heureux. Eh bien Amanda, tu me croiras si tu veux, mais il pourrait en témoigner s'il était encore là. Tu n'étais qu'un tout petit tas de chair avec ta drôle de bouille et tes yeux qui changeaient de couleur constamment, mais tu lui as parlé. Aussi vrai que je te vois, ma fille, tu es née en sachant parler. Je ne peux pas te dire par quel prodige, mais il y a bien des choses qu'on ne peut t'expliquer. Et les premiers mots que tu lui as dit, c'est « Je m'en souviendrai toute ma vie, papa, ce n'est pas grave qu'on soit pauvre. » À ce moment de l'histoire, la mère s'arrêtait toujours quelques instants avant de conclure. « Tu as toujours été si intelligente, Amanda. » Et ta sœur a toujours été si jolie.